Les politiques de santé en milieu carcéral s'exercent sous contrainte. C'est ce dont témoigne le docteur Karim Traoré. Ce médecin est impliqué de longue date dans le soin apporté aux détenus de la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, au Burkina Faso. Or, récemment, il a été nommé directeur de la santé et de l'action sociale auprès du ministère de la Justice.
Oui, il revient avec tout sur les conditions de sa nomination, sur le sens politique de cette nomination, mais également sur les conditions concrètes de mise en œuvre d'une politique progressiste envers une population socialement illégitime. On l'écoute.
Ma nomination en tant que directeur de la santé et de l'action sociale auprès du ministère de la Justice témoigne donc d'une volonté politique du ministère à prendre en charge véritablement les questions de santé des populations carcérales. Alors, le projet politique tel que écrit, il est très progressiste. En 2017, il y a eu la promulgation de la loi 10 portant régime pénitentiaire qui accorde suffisamment de droits en matière de santé pour les personnes incarcérées, notamment la gratuité de tous les soins disponibles aussi bien à l'infirmerie, dans les CHU et dans les hôpitaux des districts. Cette loi consacre également, l'exonération de tout ce qui est bilan paramédicaux pour ces détenus. Elle fait, cette loi, obligation également aux médecins de district de venir au niveau des prisons pour assurer des consultations médicales hebdomadaires. Elle prévoit aussi la construction d'unités hospitalières sécurisées au niveau des CHU et des CHSR. Donc le projet politique, il est très progressiste, mais le problème, c'est l'insuffisance des ressources pour pouvoir véritablement mettre en œuvre tout ce qui est prévu dans cette loi. Alors, autre problème, il y a la question de la légitimité. Comment défendre tout ce qui sera dépensé pour ces détenus, pour une population dont la légitimité pose problème au sein de la population générale. Les détenus sont rejetés et véritablement, il y a un problème de reconnaissance quant à l'exécution des dépenses, de gratuité de soins, de gratuité au niveau alimentaire pour les personnes qui sont jugées illégitimes.
Le docteur Traoré parle d'illégitimité des détenus. Cela signifie quoi concrètement ?
Écoute, pour les familles, la détention, ça équivaut à une forme de bannissement bien souvent. Nombre de détenus sont désaffiliés socialement. Ils ne reçoivent pas de visite, pas de soutien financier, pas de colis alimentaire. Et ça, ça a des conséquences graves sur leur santé. Par exemple, un détenu dans cette condition, s'il a besoin de payer des frais, payer des médicaments, financer une consultation à l'extérieur, il ne sera pas en mesure de le faire. Alors, il va dépendre de l'intervention d'ONG ou d'acteurs confessionnels qui interviennent ponctuellement dans la prison. Ou éventuellement, il peut aussi s'adresser à l'administration. Il existe normalement des lignes budgétaires pour financer les soins de ce type de détenus, mais soit les fonds ne sont pas sollicités par les régisseurs, ou soit simplement, ils sont simplement insuffisants. En outre, la ration pénale, tu sais, cette ration alimentaire qui est donnée journellement aux détenus pour qu'ils s'alimentent, est de qualité vraiment faible. Et du coup, les détenus qui ne reposent que sur cette alimentation pour se nourrir, eh bien, ils s'exposent très largement à des carences alimentaires, à des pathologies carencières.
Donc c'est-à-dire ?
Ben écoute, laissons le docteur Traoré nous expliquer ce que sont ces pathologies carencières.
Alors, pour les pathologies carentielles, il s'agit essentiellement du beriberi, qui est la carence en thiamine, en vitamine B, liée bien sûr à l'alimentation des détenus qui est carencée en vitamine B1. Alors, il y a aussi les pathologies cutanées dont je parlais tantôt, ces pathologies-là qui ne bénéficient pas d'un appui, d'un programme spécifique, alors que ces pathologies sont assez nombreuses au niveau donc, de nos établissements pénitentiaires, mais malheureusement qui ne bénéficient pas d'un programme d'accompagnement comme le VIH, SIDA, comme la tuberculose, par exemple.
En fait, d'un point de vue politique, l'illégitimité des détenus, elle se traduit par un coût politique trop élevé de l'investissement dans la santé des détenus. Par exemple, un ministre de la Santé d'un pays ouest-africain m'expliquait qu'il ne pouvait pas justifier d'investir dans la santé des détenus tant que l'ensemble de la population au milieu ouvert avait accès au même type de services. Alors, c'est quand même un problème.
Oui, oui, mais alors du coup, dans ce contexte de ressources limitées, est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'intervention de partenaires internationaux ?
Pas vraiment. En fait, l'agenda de l'aide internationale ne rencontre pas forcément les besoins ressentis par les acteurs sur le terrain. Du point de vue épidémiologique, à l'échelle nationale, voire internationale, il est bien sûr tout à fait légitime et pertinent de vouloir prendre en charge des pathologies contagieuses comme le VIH, la tuberculose ou les hépatites. Mais parce que, en fait, le système carcéral est un lieu de production et de reproduction de ce type d'épidémie. Cependant, cette réflexion à l'échelle de la population, elle ignore en fait les besoins individuels tels qu'ils s'expriment dans la bouche des détenus ou des acteurs du soin au niveau local. Le docteur Traoré revient encore sur cette question et il nous aide à mieux comprendre.
Alors, nous avons des partenaires internationaux qui nous appuient dans la prise en charge de nos préoccupations de santé des détenus. Et comme vous le savez, la logique d'intervention de l'aide internationale, il y a des logiques comme la visibilité, comme des thèmes déjà prédéfinis, qui ne sont pas forcément nos priorités. Nous, nos priorités, c'est par exemple la question de la surpopulation carcérale. Nos priorités, c'est par exemple la question des autres pathologies qui sont assez importantes en prison et qui ne bénéficient pas d'un programme spécifique. Je vais parler des dermatoses, par exemple. Alors, la situation, c'est celle-là. Donc, nous avons des partenaires qui nous appuient, mais malheureusement, ils ont des thèmes déjà prédéfinis et nous faisons avec ce que le partenaire dit, quoi. Alors que, bon, à côté, nous avons des priorités qui sont aussi... On dira, bien sûr, que les questions de surpopulation, c'est au gouvernement de prendre ça en charge. Les questions d'alimentation, c'est au gouvernement de prendre ça en charge, bien sûr, oui. Mais il y a aussi que ce sont nos priorités qui ne sont pas forcément les priorités des partenaires internationaux. Voilà un peu les contraintes que nous avons dans la collaboration.
Ah oui, c'est très clair. En fait, il y a une logique populationnelle, la gestion des épidémies, et une logique individuelle, la santé personnelle. Mais alors, le maître mot de la prise en charge sanitaire en prison, ce serait quoi ?
Écoute, on pourrait dire que la prison est une rupture. Mais la rupture biographique, la rupture des liens sociaux et la rupture familiale que constitue l'incarcération ne doit pas être doublée par une rupture dans la chaîne des soins. En fait, dit autrement, l'administration de la peine que constitue l'administration d'une peine de prison, et donc l'incarcération, ne doit pas se traduire par un retrait du soin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les agents de santé dans les milieux carcérales doivent absolument s'assurer de la continuité des soins. Cette continuité des soins, elle s'exprime dans deux sens. D'abord, pour les détenus qui entrent dans la prison, il convient qu'un détenu qui vient avec une pathologie et un traitement ne soit pas empêché de poursuivre son traitement une fois incarcéré. Et il convient également qu'un détenu qui développerait une pathologie en prison ou pour lequel on découvrait sa pathologie en prison, qu'il puisse, une fois sorti de la prison, poursuivre son traitement. Le docteur Traoré, en rappelant les contraintes de la mise en place de cette continuité des soins dans le cadre des services de santé carcéraux du Burkina Faso, nous donne un exemple tout à fait éclairant sur cette question et je te propose là encore de l'écouter.
Nos contraintes sont nombreuses. C'est des contraintes à type d'insuffisance de ressources, ressources matérielles, ressources logistiques et ressources humaines. C'est aussi, nos contraintes sont également au niveau de la sortie de prison. Comment assurer la continuité des soins pour certains patients à la sortie de prison ? Cela nous pose d'énormes difficultés. Quand je prends l'exemple de Burkina Faso en novembre-décembre passé, où nous avons pu dépister 27 malades tuberculeux, aujourd'hui, véritablement, la question qui se pose, c'est la continuité des soins. Parce que sur ces 27 malades tuberculeux-là, il y a 5 qui ont été libérés, dont nous n'avons pas la certitude de la continuité de leurs soins au niveau du milieu extérieur. Alors, notre vision, c'est de pouvoir permettre de la prise en charge du détenu une question centrale et globale. Que depuis l'entrée, les soins puissent être systématisés à travers un certain nombre de soins, de visites, d'examens physiques, d'examens paramédicaux, de bilan biologique et radiologique complet, pour que le détenu qui vient en prison ne puisse pas apporter une maladie pour contaminer les autres. Et aussi à la sortie, que ce soin puisse être aussi systématisé pour que la famille d'accueil, les familles ne puissent pas, la population générale ne puisse pas être contaminée par des pathologies prises en prison.
Ah oui, c'est une proposition très sensée.
Oui, oui, absolument, mais elle reste tributaire de deux facteurs principaux. D'abord, celui de la volonté de l'État et de sa capacité à intervenir dans le domaine de la santé carcérale. Alors évidemment, ça suppose une transformation radicale de la façon dont on pense ces populations, et notamment une transformation du regard sur leur illégitimité. Deuxièmement, ça suppose également une véritable transformation des conditions concrètes de la production du soin en milieu carcéral.